Les choses ont changé. En un seul jour, un seul instant. Le futur est différent de ce qu'on en attendait. On se met à oublier le passé. Ni foule, ni bain de sang. Et pourtant, il y a bien eu une révolution. Si j'essaie de reconstituer les événements, de me souvenir de ce que j'ai vu, d'imaginer ce que je n'ai pas vu, je dirais que les choses se sont passées à peu près comme ça.
L'apocalypse est notre chance, de Sylvie Coquard-Morel et Sophie Maurer.
L'apocalypse est notre chance. Cinquième épisode.
Le même jour, deux personnes avaient proposé de reprendre la direction de ma thèse. Christine Collat et Bruno Kwaronski. La première n'y connaissait rien et le second détestait mon directeur de thèse. J'ai refusé la proposition de Bruno sans connaître les conséquences de ma décision.
Bon, j'ai vu la petite Vanetti, elle n'a pas l'air partie pour accepter que je la dirige. Et quand bien même elle accepterait, elle ne me livrera pas les archives de Luc comme ça.
Elle semblait nerveuse.
Pas plus que ça, mais je pense que si elle savait quelque chose, elle saurait le cacher.
Elle nous met en danger.
D'autant que Christine Collat semble lui tourner autour et vouloir les documents.
La présidente de votre fac? Et pourquoi? Je croyais qu'elle savait rien.
Je le pensais aussi.
Quant à la présidente de l'université, elle venait seulement de prendre conscience de ce qui se passait sous ses yeux.
Il s'agit d'activités qui pourraient menacer la sécurité de l'État.
Et Luc aurait été impliqué?
Tout nous porte à croire qu'il était à la tête d'un groupe aux visées dangereuses.
Mais qu'est-ce que vous racontez? Il s'est suicidé. On ne se suicide pas quand on projette de tout faire exploser.
Le suicide, c'est ce que dit l'enquête de police.
Quoi? Vous avez éliminé un professeur dans mon université.
Aidez-moi, Christine.
Sortez.
La sœur de Luc Payron avait bien voulu accepter mon rendez-vous dans un café du 5e.
Vous avez lu tout ce que vous avez emporté?
Pas encore, mais j'ai presque tout sur
vous. Et vous en redemandez?
Je sais pas par où.
Je ne suis pas sûre de pouvoir vous aider, mais allez-y franchement. Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Je connais bien la carrière universitaire de votre frère. Mais c'est sur lui que j'aimerais en savoir un peu plus. Son caractère, ce qu'il était en dehors.
Qu'est-ce que ça peut faire maintenant?
Il me manque.
Dites-moi plutôt ce qui vous perturbe, on ira plus vite.
J'ai trouvé des documents en classant ses archives. Des documents qui ne collent pas avec l'image que je me faisais de lui. Pas du tout.
Quel genre de documents?
C'est délicat.
Si vous saviez comme je me foutais de ses travaux.
Des fiches sur d'autres professeurs. Des interrogatoires. Avec des questions qui concernent leur intimité.
Luc faisait déjà des fiches quand il avait 12 ans. Il faisait des fiches sur tout.
Non, mais dans celle-ci, il a aussi noté des choses, des détails qui n'ont rien à voir avec la recherche. Il y a des questions assez violentes.
J'ai accepté de vous voir, mais c'était une erreur. Je n'ai aucune envie de parler de mon frère.
S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir.
Vous êtes jeune. Vous allez vous en remettre. Si on s'était rencontrés avant, je vous aurais juste suggéré d'éviter de tomber amoureuse. Les gens hantés, il vaut toujours mieux se tenir à bonne distance.
N'importe quoi, j'ai jamais été amoureuse.
D'accord.
Je vous assure. N'importe quoi.
C'est ma faute, c'est ma faute. Je n'aurais jamais dû accepter ce rendez-vous. Je vais régler.
Garçon.
Christine Collat était restée chez elle ce matin-là.
Christine, qu'est-ce que tu fais là?
Je profite du jardin, du soleil.
En quel honneur?
J'ai le droit, non?
Bien sûr. Et comme c'est la première fois depuis 2 ans que je te vois à la maison le matin, je m'étonne.
Je constate que tu commences ta journée aux aurores, en tout cas.
T'as bougé toute la nuit, je me suis endormie quand le jour se levait. Quelque chose ne va pas?
Je ne sais pas.
T'es restée ici pour me parler, alors vas-y, parle.
J'ai envie de marcher. Viens.
Ça nous concerne, nous ?
Non.
Ulysse, il a un problème, il t'a appelé ?
Tu sais bien que c'est toi qui l'appellerais en premier. Non, ce n'est pas Ulysse. Luc ne s'est pas suicidé.
Quoi ?
Il a été suicidé. J'ai eu l'information hier soir par François Boiron, tu sais, l'homme de l'Élysée.
Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est complètement dingue.
C'est une opération confidentielle. Je suis désolée. Je te rends complice en t'en parlant, mais je ne peux pas garder ça pour moi.
Mais tu l'as cru ? Il est peut-être fou, ton Boiron. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement ?
Il m'a dit que Luc faisait partie d'un réseau terroriste.
Pardon ?
Et qu'il fallait que je les aide.
Mais c'est délirant. Que tu les aides à quoi ?
Ça avait l'air vraiment grave.
Grave au point de suicider Luc ?
Et dans mon université.
Tu vas arrêter.
Quoi ?
La présidence, Christine, c'est trop risqué.
Je t'en prie, c'est pas à ce niveau-là que ça se situe. Je ne comprends pas comment les activités de Luc ont pu m'échapper à ce point.
Mais on s'en fout de ça. L'important, c'est pas ça. Dis-moi que tu vas être raisonnable et que tu vas donner ta démission. Christine.
Écoute, j'ai ramé 10 ans pour obtenir ce poste de présidente. J'y ai consacré tout mon temps et toute mon énergie. Tu t'en es suffisamment plein.
Mais non,
je ne peux pas abandonner maintenant.
Mais s'il y a un groupe terroriste infiltré dans ton université et qu'un des leurs a été tué, tu crois qu'ils vont laisser passer ? Ils vont mener une action de rétorsion. Et qui va être leur cible ? Toi.
Mais tu dis n'importe quoi.
Mais ils sont tranquilles à l'Élysée. Ils agissent en douce, on ne les connaît pas, ils ont les services de police à leur disposition. Toi, qui te protège ? Au moins préviens la presse.
Ça ne servira à rien.
Alors avertis tes profs que vous soyez tous solidaires.
N'importe quoi, autant mettre la clé sous la porte tout de suite.
S'il te plaît, Christine, démissionne. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour Ulysse. Ou pour moi.
J'aurais jamais dû te parler de ça.
Ce matin-là, Willy dormait du sommeil du juste dans la chambre que Sabine louait à Madame Galli.
Sabine ? Sabine ? Ouvrez-moi ! Sabine !
Merde, Willy ! Oui, madame ! Je me réveille !
Je vous demande de m'ouvrir.
Je suis pas habillée. Je vous rejoins dans 3 minutes.
Sabine, vous pensez faire des choses ? Ah ! Ben voilà, j'en étais sûre.
Non mais c'est juste pour une nuit, il avait perdu les clés chez lui.
Bonjour madame, Willy Nasser, enchanté.
Vous vous habillez, vous dégarpissez.
Sabine m'a beaucoup parlé de vous, je suis ravie de faire votre connaissance.
J'ai dit dehors !
Je suis désolée madame, ça se reproduira plus.
J'ai gagné à être connue, hein, vous savez.
Willy, s'il te plaît.
Le contrat était clair entre nous Sabine, j'avais dit pas de petite amie dans la chambre.
Ah non, je suis seulement son camarade.
Willy !
Ok, j'essayais juste d'être plus précis. Bon, je vais aller prendre une douche, hein. ça me changera, je connais pas votre salle de bain.
Sabine, dites à ce squatteur de partir.
Vous promettez de pas la virer si je m'en vais ?
J'ai rien à vous promettre.
Bon bah alors après la douche, je vais m'installer devant la télé, hein. Il doit y avoir un salon là au bout de ce couloir.
Oui, arrête. Je suis désolée madame Galli.
Et je vous préviens, vous n'avez pas intérêt à la virer. Je m'en vais, vous n'avez pas intérêt à la virer. Allez, salut.
Sabine ?
À l'appartement, je prenais mon 3e café en fouillant les documents de Luc.
Oui, vas-y.
Quand Vincent est entré dans ma chambre.
Dis, je t'entends taper comme une forcenée. T'en es où là sur ta thèse ? T'arrives à t'y remettre ?
C'est pas vrai, tu m'attaques dès le matin. Franchement, pour l'instant, la thèse, elle est un peu loin.
C'est ce que je craignais. Écoute, t'as trouvé ton directeur de thèse mort dans son bureau. N'importe qui serait traumatisé. Il faut que tu digères, mais ne t'enferme pas avec ces documents, ça
mais
sert
enfin,
à rien.
Mais enfin, Vincent, tu délires ou quoi ? Comment veux-tu, après ce qu'on a découvert dans ces fichiers, que je revienne à ma thèse, comme si de rien n'était ?
Je comprends pas ce que tu cherches. Luc était peut-être différent de l'homme que tu connaissais, mais ça change rien à ce qu'il t'a apporté. Laisse tomber le reste.
Je vais finir de dépouiller tout ça, et après on verra. Et puis, il faut bien que je vois ce qui mérite d'être publié, je peux pas laisser ça comme ça.
Occupe-toi de ces travaux universitaires alors, mais laisse le reste. Après tout, ça te regarde pas.
C'est ce que tu ferais, toi ?
Je crois. Qu'est-ce que ça te rapporte de fouiller là-dedans ?
Ce que ça me rapporte, je m'en fiche. Le problème est ailleurs. Je peux pas supporter que Luc ait menti.
Bon, nous y voilà.
Quoi ?
Évidemment que tu peux pas supporter ça. Franchement, Laura...
Attends, ça a rien à voir avec moi.
Écoute, le mensonge fait partie de la vie. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Tu l'as payé assez cher avec ton père, mais là, ça n'a rien à voir avec ton passé.
Pourquoi est-ce qu'on a des amis qui connaissent toute votre vie ?
Pour qu'ils vous signalent quand on commence à battre la campagne.
Willy m'a raconté plus tard la suite de sa journée noire. Quand il est arrivé devant la pizzeria, c'était le coup de feu.
Je suis désolé, monsieur Coutin, il m'est arrivé une galère. J'ai dû trouver un plan pour déposer toutes mes fringues, tous mes bouquins.
T'as 12 pizzas livrées chez Saga. Ça fait 20 minutes qu'ils poirotent.
Ok, bah je fonce, je leur dis que c'est de ma faute.
Salut, mais je te fais
réchauffer. Ok, 3 margaritas, 2 chorizo, 3 calzones, 4 tacos. Elles sont où, les vieilles?
Je préfère te dire, je t'ai trouvé un remplaçant et puis il commence la semaine prochaine.
Ah non, non, c'est pas possible ça. J'ai vraiment besoin de ce taf.
Moi, j'ai besoin de pouvoir compter sur mes gars.
Paulette, c'est bien.
Merci.
Gaffe sur le scout.
Ouais, ouais, ouais. Hey, je peux pas perdre mon boulot, monsieur. Ça, je me suis déjà fait virer de ma piole ce matin. Là, même pour un mec normal, c'est trop.
Désolé pour toi, va falloir retourner chez maman.
Merde, elle est pas là, d'accord. La dernière fois, vous avez dit que vous vouliez plus former de livreur. Je suis le meilleur, et vous le savez.
C'est la crise, Willy. Des gars qui cherchent du boulot, on en trouve sous les pattes des pigeons. Et des aussi bons que toi, j'en trouverai aussi. Quand tu finis la semaine, je te paye ton solde, basta.
S'il vous plaît.
Hé, hey, Jarod, c'est pas en chargeant la pâte que les olives vont pousser.
S'il vous plaît.
Casse-toi maintenant, les pizzas refroidissent.
Mais...
Pendant ce temps-là, Nel Frigo entrait dans le bureau de Bruno Kwaranski.
Je ne t'ai pas dit d'entrer.
C'est important.
Je sais ce que tu vas me raconter. Il y a du remous dans le groupe.
Ils sont inquiets, c'est normal. Certains aimeraient avoir la garantie que l'opération va aboutir rapidement.
C'était prévisible.
Ils veulent rencontrer Agnès.
Impossible.
À part Luc et toi, c'est la seule qui puisse les rassurer sur la faisabilité de l'opération. Ils ont besoin de la voir.
Je te dis impossible. Dis-moi plutôt qui est le leader de ce petit remue-ménage. La rivière, Grimzer?
Grimzer est dans Jacques. Et des deux, c'est plutôt Grimzer que le groupe a tendance à suivre. Qu'est-ce que tu fais?
Je regarde ce qu'on a. Tu sais que Grimzer a obtenu un poste à Stanford à partir du semestre prochain? Il a déjà loué une maison pour y installer sa petite famille. Je les connais, ces filles. Deux ados à qui il a déjà promis la Californie. Ce serait bête de les décevoir.
Tu serais pas en train de chercher un moyen de mettre ce bel avenir en péril?
Tu te souviens de la plainte pour plagiat déposée par un de ses doctorants contre Bochem?
Oui.
Que dirais-tu d'une plainte bien montée contre Grimzer? Genre un comité de rédaction qui recevrait de sa part un article honteusement pompé sur un de ses doctorants. Avec un profil vindicatif, le doctorant, de préférence.
Tu ne peux pas faire ça.
Ah bon? Pourtant, les Américains adoreraient. Les scandales de campus, c'est leur truc.
Grimzer perdrait son poste, sa carrière, il perdrait tout.
On va juste lui envoyer un avertissement. Ça va l'occuper, il va cesser d'agiter le groupe. Au moment voulu, on démontrera nous-mêmes le truc.
Dit comme ça, ça me va.
Tu t'en occupes?
Oui.
Et à part ça, tu tiens le choc avec ta sœur?
Je sais pas, j'essaye de pas me poser de questions.
Son état a empiré?
Elle se bat toujours, mais elle va perdre.
Si je peux t'aider.
Merci, mais ne t'inquiète pas. Je vais me débrouiller, je l'ai toujours fait. Faut seulement que j'apprenne à le faire sans elle.
Willy roulait à toute allure quand c'est arrivé.
Ouais, j'ai déposé les 3 margaritas chez les Chinois. Elle est trop fort. Ils m'ont proposé de me payer en yens. Évidemment, j'ai dit oui. Mais non, je déconne. Moi, c'est quoi la prochaine? Oh non, pas Montrouge. J'ai un cours. Et pourquoi ils commandent pas chez eux? Ouais, ok, ok, je speed. Je suis là dans Paille. Ouais, au Paris. Eh, c'est avec ça qu'on t'aime, pas de...
La présidente de la fac m'avait de nouveau donné rendez-vous dans son bureau.
Madame, Laura Vanetti pour vous.
Laura, je suis ravie de vous voir. Merci, Patricia.
Bonjour, madame.
Vous pouvez m'appeler Christine. Entrez, asseyez-vous. On va se mettre autour de la table basse, ce sera plus agréable. Je suis contente de pouvoir discuter avec vous dans un contexte un peu apaisé. Voulez-vous un café? Je suis dotée depuis peu d'une machine à capsules.
Non, je vous remercie.
Vos cours se déroulent bien? Pas de soucis avec vos étudiants?
Tout va bien, je vous remercie.
Avec ce qui vient d'arriver, nous sommes tous sous pression. Vous, particulièrement.
C'est vrai. Je crois que j'ai pas encore réalisé.
C'est ce qui m'a poussée à vous proposer de diriger votre thèse. Vous avez besoin de reprendre pied.
Je vous en remercie, mais...
Vous allez faire du beau travail, vous et moi.
Justement, j'ai beaucoup réfléchi et, sauf votre respect, je pense que vos recherches sont un peu trop éloignées du domaine dans lequel j'ai travaillé avec le professeur Payron.
Je ne vous suis pas.
Je préférerais chercher un autre directeur de thèse, dont les travaux seraient plus en phase...
Mais qu'est-ce que vous racontez? Je suis parfaitement au fait des travaux de Luc.
Je l'ignorais.
Nous avons fait nos études ensemble et gardé des relations... Gardez ça pour vous, mais je peux vous assurer que je le connaissais très bien.
Je suis désolée, mais il ne m'a jamais parlé de vous dans ces termes.
Il ne vous a certainement pas tout dit.
Ça, je m'en rends compte, oui.
Vous êtes rassurée?
Oui.
Bon. Alors, sortons nos agendas et voyons comment vous allez pouvoir vous immiscer dans mon emploi du temps. Vous devez soutenir dans un délai raisonnable... Disons d'ici Noël.
Je vais tout faire pour.
Une heure plus tard, j'étais en TD avec le groupe 1 de mes étudiants de L3.
Oui. Oui. Arrête de roupiller, on a un desté.
C'est plus fort que moi.
T'as le visage bleu, tu ressembles à un crapaud. Tu devrais pas être ici.
J'ai foncé pour pas manquer le cours.
On s'en fout du cours, t'es pas en état, Oli. Faut que t'ailles chez le médecin.
Si vous tenez absolument à discuter, vous allez devoir sortir. Et ce sera avec un zéro. Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous? Vous êtes blessé?
Accident de scout.
Vous êtes bleu. Vous avez consulté?
J'arrête pas de lui dire. Même avec un casque, on peut avoir un traumatisme crânien.
Mais je préfère venir à votre cours.
Et moi, je vous demande de sortir, monsieur Nasser. Illico, allez, Sabine, vous l'accompagnez chez le médecin. On trouvera un moyen pour rattraper ce devoir.
Mais ça va, je suis bien ici. Ça va, bah concentre-toi. Ça va, c'est bon, je peux y aller tout seul chez le médecin. Non mais j'ai besoin de personne, hein. Tais-toi, toi. Non mais Sabine, j'ai pas besoin que tu viennes avec moi, t'as trop bossé pour ce DST, c'est bon.
Vous allez consulter, promis?
Ouais, promis.
Bon, Sabine, rasseyez-vous et continuez votre devoir. Et vous, je compte sur vous. Bon, pour compenser l'interruption, vous n'êtes pas obligé de répondre à la dernière question. Ouais. Non, silence! Il vous reste 30 minutes.
Ce jour-là, Agnès a dû passer un coup de fil en urgence à Bruno Kwaranski.
Bruno Kwaranski, j'écoute.
C'est moi.
Vous n'êtes pas censé m'appeler.
J'ai réussi à entrer dans l'ordinateur de la demoiselle.
Je sais de qui vous parlez.
Elle a eu accès aux fiches de renseignement des membres. Elle les a toutes examinées.
Merde. Et les données opérationnelles?
Ça, je crois pas. C'est techniquement plus compliqué.
C'est une chercheuse. Elle va continuer de fouiller. Il faut absolument l'empêcher d'aller au-delà des fiches.
Et vous proposez quoi?
Vous vous débrouillez?
J'ai carte blanche.
Oui.
Cette soirée avait une douceur de fin d'été. J'avais réussi à bosser en bibli sur ma thèse. Ça m'avait fait du bien. Je venais de garer mon vélib en bas de l'appart quand un type que je ne connaissais pas m'a accosté.
Excusez-moi. Vous croyez qu'il est bon celui-là?
Quoi?
Je suis myope. J'arrive pas à voir si je peux remonter la selle de ce vélib.
Je vais regarder. Myope, ça vous empêche pas de conduire un vélo?
Pas quand des jolies femmes viennent à mon secours.
Qu'est-ce que vous faites?
J'ai une arme. Tu cries pas, tu parles pas. Tu vas entrer bien gentiment dans la voiture.
Mais... Aïe!
Chut, tais-toi!
Qu'est-ce que vous voulez?
Pose-toi!
Chut!
L'apocalypse est notre chance. De Sylvie Coquart-Morel et Sophie Morel. 5e épisode. Avec Tiffaine Rabot-Fourny, Guillaume Marquet, Slimane Yevsa, Hélène Alexandridis, Benoît Guibert, Philippe Pétieux, Garance Clavel, Sophie Doll, Flore Bablet, Virginie Colmain, Franck Molinaro, Samuel Churin, Dominique Ollier, Simon Ferré, Bruno Abraham Kremer, Bruitage, Bertrand Amiel, conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière et Céline Geoffroy, prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré et Nicolas Depagraf, assistant à la réalisation, Félix Levaché, réalisation, Benjamin Habitant.
Extrait du journal de Luc.
13 mai. Comité de sélection toute la journée. Je suis épuisé. Choisir sur la base d'un examen du dossier et d'une audition de 30 minutes, quelqu'un avec qui on va partager des années de travail au sein de la même université n'est pas un exercice fait pour moi. Bien des collègues trouvent que ça fait partie des joies du métier, ce pouvoir de vie ou de mort sur les candidats, mais pour ma part, je ne trouve aucun plaisir à ce jeu cruel. Et aujourd'hui, c'était festival. Entre Michel qui invalide des dossiers parce que le candidat ne le cite pas assez dans ses travaux, ou ne lui est pas déférent de manière suffisamment ostentatoire, et Fabien, toujours leur avis de la crèche, qui les trouve tous formidables, et évite ainsi de s'aliéner qui que ce soit, je n'en pouvais plus. On a vu défiler 15 candidats aujourd'hui. 15. C'est absurde. Tout ça parce qu'on n'a pas le courage de sélectionner les dossiers un peu sérieusement. On se retrouve à auditionner Machinette, dont tout le monde sait qu'on ne la recrutera jamais tant elle est nulle, uniquement parce qu'elle a fait sa thèse avec Trucmuche qu'on ne veut pas froisser. On passe une demi-heure à écouter Bidule parce qu'il a fait un parcours sans faute, bac mention très bien, ENS, doctorat rondement mené avec un jury sérieux, tout ça pour se rendre compte qu'il ne sait pas articuler 3 phrases à l'oral sans bafouiller ou regarder ses notes et qu'il ne sera jamais capable de tenir un amphi. Et puis ça n'a pas loupé. Comme à chaque fois est arrivée la candidate trop brillante. Thèse jugée exceptionnelle par son jury, projet de recherche passionnant, pleine d'idées pour ses enseignements à venir, un CV long comme le bras, avec tout ce qu'on exige aujourd'hui. Expérience à l'étranger, colloque, publi, tout y était. Elle a fait son audition sans notes, était vivante, ouverte, enthousiaste. Bref, elle a su donner envie de travailler avec elle comme aucun des 14 autres et elle a réveillé l'assemblée. Ouais, mais voilà. Pour Jean, c'en était trop. Il n'a pas hésité à le dire comme ça quand elle est sortie de la salle. Celle-là, c'est un peu trop. On rêve. Et pourtant, je sais très bien que ça part d'une bonne intention. Jean est suffisamment clairvoyant pour saisir la nature du problème. Cette candidate est plus brillante que la moitié du comité réuni. Les commentaires étaient d'ailleurs révélateurs. On recrute un maître de conférence, pas un entrepreneur. Comme si l'université ne demandait pas depuis déjà des années à ses enseignants-chercheurs d'être justement capables de lancer des initiatives, d'organiser des colloques, des conférences, des journées d'études, de répondre à des appels à projets, de lancer des groupes de travail. Il en faut du culot pour reprocher à quelqu'un de faire ce que tout un système attend de lui, mais ça n'a pas embarrassé Nicolas. Sébastien, quant à lui, ne s'est pas gêné pour nous gratifier de ses habituels commentaires graveleux. Lui s'est rentré dedans, mais il peut toujours compter sur la complicité de certains de mes chers collègues. Et ça n'a pas manqué. Ils ont fini par me soupçonner d'avoir un intérêt à ce que cette candidate soit recrutée. J'ai eu beau leur expliquer que je ne la connaissais pas avant d'avoir ouvert son dossier pour faire mon rapport, leur dire que son audition m'avait tout simplement bluffé, la plupart ne m'ont pas cru. J'y vois le énième symptôme des ravages de l'utilitarisme sur nos disciplines. Ce paradigme de l'intérêt envahit tout. Mes collègues les plus fainéants considèrent désormais que leur principale activité professionnelle consiste à dévoiler des intérêts cachés. Quel projet intellectuel. Et quel progrès de la pensée. Cette maladie infantile des sciences sociales fait en tout cas des dégâts, car pour finir, on a recruté un type pas méchant, avec un beau dossier, mais qui ne ferait pas de mal à une mouche dans tous les sens de l'expression. Il est certain que la sociologie ne va pas être bouleversée avec des enseignants-chercheurs comme ça. Bruno et moi avons bataillé comme des diables, mais on a été mis en minorité dès le premier tour. Tous pour l'eau tiède. Tous pour le beurre mou. Ça me rend dingue.